Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 3 novembre 2021. Ce soir, il y aura la Fed. Ce soir, on saura ce qu'il en est de ce fameux tapering et Powell nous donnera son 228e sentiment sur l'inflation. Ceci même si l'on a bien compris depuis des mois qu'il est complètement faux. L'inflation n'est définitivement pas sous contrôle et visiblement, elle est encore moins transitoire. Mais les marchés semblent s'en accommoder puisque nous sommes à quelques heures de nous faire lâcher par la Fed après 2 ans de soutien indéfectible et que, pour fêter ça, les indices du monde entier sont au plus haut de tous les temps. On sent presque une certaine arrogance que les plus pessimistes pourraient qualifier de bulle spéculative. Quand je dis que les marchés du monde entier sont au plus haut de tous les temps, c'est inexact. Le DAX doit encore grimper de 3 points et le CAC 40 aussi. Le SMI est à la traîne et tant qu'ils n'auront pas laissé dans l'indice que les titres qui montent, on n'y arrivera pas. Par contre, les Américains ont battu des records historiques et ont rendu ces lettres de noblesse à un livre paru en 1999, un livre qui s'intitulait Dow 36000 ou comment profiter de la hausse des marchés. Livre qui était très à la mode en l'an 2000 quand tout ce qui allait à 10 allait à 100 et tout ce qui allait à 100 allait à 1000. Et livre qui fut beaucoup moins populaire quand le château de cartes s'est effondré au printemps 2000. Mais aujourd'hui, 22 ans après, les auteurs doivent se rouler par terre de rire puisque non seulement leur objectif est atteint, mais en plus, nous sommes passés de la théorie du tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000, à la théorie du toute boîte merde qui est shortée par le marché et qui sort des chiffres un peu moins mauvais que prévu va directement à 1000 à moins que ce soit une crypto, auquel cas elle va directement à 100 000. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite, bien sûr. Bien sûr que cette fois c'est différent, bien sûr que cette fois c'est pas pareil, et que les sociétés sont mieux qu'en l'an 2000, et bien sûr qu'une boîte qui paye 350 de PI parce qu'ils vont hypothétiquement vendre 100 000 voitures s'ils finissent par signer le contrat est parfaitement logique. Bien sûr que faire doubler la valeur d'une boîte de location de voitures parce qu'ils ont sorti des bons chiffres, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune raison de penser un seul instant que le marché est devenu débile, manipulé et complètement hors sujet. Tenez, ce soir, la Fed va annoncer qu'ils démarrent leur tapering et les marchés vont continuer de monter parce que finalement, l'inflation, c'est bon pour les actions. Et c'est cool si le baril va à 100. En 2021, un baril à 100 dollars ne peut plus provoquer de récession comme c'était le cas il y a 10 ans. Oui, parce qu'en 2021, 2 ans après une pandémie, l'économie ne fonctionne plus pareil et nous sommes dans un vaisseau spatial en direction du firmament. Plus rien ne peut nous faire baisser, plus aucune crise ne peut nous toucher, plus aucun marché ne baissera, jamais plus, et nous sommes entrés dans la période du bull market perpétuel, un bull market où tu peux raconter n'importe quoi à n'importe qui, et ça deviendra une stratégie d'investissement en quelques heures. Il y en a bien qui ont lancé une crypto-monnaie qui ambitionne de devenir la première monnaie interplanétaire, et que les gens sont assez cons pour l'acheter et la faire monter de 4000%. À ce rythme-là, je vais lancer la première monnaie qui pourra être utilisée sur la planète Tatooine, pour autant qu'on la découvre un jour. Ça devrait passer comme pitch. Nos doutes se sont donc envolés et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a un mois, on se méfiait des attentes de résultats du Q3, alors que tout le monde parlait de réduire les projections et d'être plus conservateur dans cette période de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Voici que depuis hier, nous avons constaté ou décidé que les choses allaient mieux. En effet, le prix des containers a baissé de 10%, le Baltic Dry Index est en chute libre depuis la rentrée scolaire, et si ça se trouve, on va nous régler la crise des semi-conducteurs en 3 jours, alors que l'on comptait le faire en 3 ans, il y a 3 semaines. Les marchés ne s'arrêtent plus, et quand on voit la gueule du VIX, l'indice de volatilité, on se dit que la confiance est à son top, et que les performances de l'année vont être tout simplement hallucinantes. Et puis, alors que tout va bien, que nous sommes en train de nous injecter la 8e dose de vaccin anti-inflation, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un vaccin contre la Fed sera bientôt disponible. La Fed ne devrait donc n'être qu'un non-event de plus dans cette marche en avant vers les 5000 sur le S&P 500 et il ne se passe bientôt plus un jour sans que l'on franchisse de nouveaux caps dans ce qui pourrait bien être la dernière phase de ce bull market. Enfin, c'est ce qu'espère les bears, hein. Sauf qu'avec ce qui s'est passé hier soir sur Avis, la théorie du bull market perpétuel vient de se renforcer encore un peu plus. Il y a donc un vieux truc qui se transmet de trader à trader depuis la nuit des temps, c'est la théorie de Dow. Charles Dow était un peu le père fondateur de l'analyse technique et celui qui a compris en premier l'importance des tendances dans le marché. Au milieu de tout ce qu'il a écrit et dit, il y a un petit truc que l'on se rappelle de temps en temps, c'est que si le Dow Jones industriel, le gros Dow Jones que l'on connaît tous, fait un nouveau plus haut avant d'être validé, il devra être suivi d'un nouveau plus haut de la part de l'indice des transports. Oui, parce qu'il faut valider le fait que si l'économie va bien, il faut aussi que les transports aille bien. Il faut aussi noter que cet indice est le premier à avoir été créé par Charles Dow à la fin des années 1800. Bien sûr, les composants actuels ne sont plus les mêmes qu'en 1880. Mais toujours est-il qu'hier, le Dow Jones Transportation a terminé au plus haut de tous les temps avec une hausse stratosphérique et digne des meilleures journées du Nasdaq du début du mois de mars de l'an 2000. Près de 7% de hausse, incroyable. Et en plus, une hausse pareille pourrait être justifiée par le fait que l'ensemble des compagnies aériennes font actuellement un carton parce que les gens se battent pour prendre l'avion, ou alors les trains n'arrivent plus à suivre parce que la demande des containers et des trains de marchandises n'arrive plus à suivre. Mais que nenni, la hausse est due uniquement à un seul titre, Avis. Oui, Avis, le loueur de voitures. Pas le business le plus sexy de la planète, hein, surtout après le retour de faillite de Hertz. Mais hier, Avis a explosé de 110%, touchant même les 205% de hausse au plus fort de la journée. Vous me direz donc sans doute, mais qui a fait un takeover sur Avis? Ce qui semblerait assez logique. Mais en fait, ça n'est pas un takeover. C'est juste une boîte qui a publié des chiffres au-dessus des attentes juste après que l'ensemble de la planète Hedge Fund ait trouvé intelligent de vendre leur mère pour shorter le titre. Nous avons donc pu assister à un short squeeze massif sur Avis qui est instantanément devenu un meme stock avec tout ce qu'il y a de YOLO et de FOMO avec. Alors je ne sais pas si cette confirmation de bull market qui provient de l'indice des transports est valable quand c'est l'œuvre d'un seul titre qui est complètement manipulé. Je ne sais pas ce que dirait Charles Dow de cet état de fait, mais je suis certain d'une chose, il dirait certainement, mais alors certainement, que ce marché est devenu complètement débile et que bull market ou pas, confirmation de bull market ou pas, ça va finir par nous péter à la gueule. Ailleurs, ce matin, en Asie, le Japon est fermé parce que c'est le jour de la culture et pendant que les Japonais se cultivent, les Chinois sont légèrement en baisse et visiblement personne ne les a prévenus que la problématique des chaînes d'approvisionnement était en train de s'améliorer. Il faut dire qu'ils sont en train de chasser la moindre trace d'un cas Covid et de les expédier dans un camp de travail tout au nord de la Chine pour ne pas que ça vienne gâcher les JO d'hiver. Pour le reste, le pétrole est en légère baisse à 82,67. Le plan des Iraniens pour revenir à la table des négociations ne semble pas se dérouler sans accroc. Et l'or, comme d'habitude, tout le monde s'en fout du côté des cryptos. Le Bitcoin repart à l'assaut des 63 000 $ et des brouettes. Et Goldman Sachs estime que l'Ether pourrait aller à 8 000 d'ici la fin de l'année parce que les investisseurs voient ça comme un proxy pour jouer l'inflation. Et comme l'inflation est en train de partir en sucette, cela semble assez logique. Bon, après, quand vous regardez un peu plus loin, l'argument de vente est assez faible, hein. On s'est rendu compte que l'Ether montait en accord avec des données inflationnistes, donc si l'on pense que l'inflation va monter, faut acheter de l'Ether. C'est clairement basé sur de la recherche pointue et sur 9 pages de disclaimer à la fin de l'article. Disclaimer qui dit que toute performance passée ne peut être une garantie de performance sur l'avenir. Mais bon, on s'en fout. Comme je vous le disais plus haut, il suffit de se dire que toute crypto-monnaie qui passe les 1000, eh bien, va à 1 million et on peut vendre ses salades dessus. Aujourd'hui, un bon vendeur pourrait vendre de la Tesla à n'importe qui en expliquant que même si c'est pas encore signé, Hertz voit déjà une forte demande sur les Tesla qu'ils vont louer et que ceci est une révolution. C'est fou, non ? Tesla a pris 300 milliards de market cap pour un contrat de 4,2 milliards qui n'est toujours pas signé, mais les clients de Hertz réservent déjà des Tesla de location qui ne sont pas encore fabriqués. Alors, je crois qu'on a largement dépassé le concept du « je crois que ce que je vois ». Dans les nouvelles du jour, on retiendra que Biden fait la leçon à Xi Jinping parce qu'il n'est pas venu à la COP26 et estime que si un grand pays comme la Chine ne se préoccupe pas du climat, c'est pas bien. Alors, venant des États-Unis et du mec qui dormait pendant le discours d'ouverture de la COP26, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même. La bonne nouvelle, c'est que Biden aura oublié ce qu'il a dit dès ce soir. On notera aussi que ce soir, nous allons donc tous écouter religieusement Monsieur Powell qui va nous dessiner la trajectoire de l'avenir des marchés et de l'économie. Mais surtout de l'économie. Tout le monde sera collé devant son téléviseur pour voir ce qu'il y a à dire, à moins qu'il y ait un match de Ligue des Champions, ce qui changerait tout et qui nous permettrait d'attendre jusqu'à demain. Dans les titres qui marchent sur la tête, on retiendra encore Bed Bath & Beyond, qui ont signé un partenariat pour la distribution alimentaire. Et tout le monde trouve ça super. Amazon galère comme des bêtes avec leur secteur alimentaire, mais si c'est Bed Bath & Beyond, ça va aller nettement mieux. Le titre prenait 80% after close hier soir. 80%. Mais mis à part ça, pas de bulle, hein, pas de bulle, pas de bulle. On parle toujours d'Evergrande qui continue de s'accrocher à la paroi de la face nord de la guerre par le bout des ongles et on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer. Même si l'on sait que l'on est immunisé. À propos d'être immunisé, on peut aussi parler de Pfizer qui a rehaussé ses objectifs de vente du vaccin anti-Covid et qui a annoncé de bons chiffres, tout ça le jour où la FDA annonce que leur vaccin est approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans. Alors moi, il y a toujours un truc que je comprends pas. On nous dit depuis le début que les enfants sont quasiment pas à risque dans cette pandémie et que ceux qui sont vaccinés ne sont pas empêchés de transmettre le virus, vaccin ou pas. Mais alors, quel est l'intérêt de vacciner les 5 à 11 ans? Enfin, mis à part à gonfler les bénéfices de Pfizer, hein. Non, parce que, alors, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme à chaque fois qu'on prend, si à chaque fois qu'on prenait un avion, on vous enfilait une combinaison anti-G, un casque, histoire que l'on soit protégé en cas de crash. Ça ne servirait strictement à rien. Alors bon, je ne sais pas. Et si quelqu'un peut m'expliquer la logique de vacciner les 5 à 11 ans, je suis preneur. Parce que je ne suis ni anti, ni pro, mais là, je dois dire que je comprends pas. Et personne n'a encore réussi à me fournir une explication logique. Enfin, mis à part celle de gonfler les bénéfices de Pfizer. Côté chiffres, il y aura le chômage, il y aura le chômage en Europe, le PMI des services en Europe et aussi aux USA, Madame Lagarde qui parlera, ainsi que l'ISM Non Manufacturing et les Factory Orders aux USA. Et puis ce soir, il y aura Powell et là, tout va changer. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle journée, un bon café, une bonne dose d'ivermectine pour embêter les autorités pharmaceutiques. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit pour voir ce qu'est le dernier titre à la mode qui a pété les plombs. Très bonne journée à tous.